Europe 1,
5h, 7h,
Mathieu Noël.
Bonjour à tous, bienvenue sur Europe 1, il est 4h58, nous sommes le jeudi 7 février 2019. Je salue mes fidèles et courageuses complices, Eva Roque et Céline Acosta, qui sont, rassurez-vous, aussi crevés que vous à 4h58 le matin, mais qui simulent très bien.
Waouh!
Waouh!
Ce qui laisse d'ailleurs rêveurs quant à leur capacité à faire semblant dans d'autres activités plus intimes. J'en profite pour faire un point facile à Costa. Alors, qui on écoute là, Céline? Cool and the Gang ou Earth, Wind & Fire?
Earth, Wind & Fire, évidemment.
Oh oui! Oh oui, enfin! Enfin, le 7 février, le jour où enfin Céline a réussi à reconnaître un disque d'Earth, Wind & Fire. Bravo! Céline, quel temps sur le pays aujourd'hui?
Mais ça va être relativement mitigé.
Mitigé.
Ça vous va, ça, comme réponse?
Oui, c'est pas. Oui, mais c'est-à-dire que vous ne prenez pas de risque. Vous faites pas de déçus.
On aura de la pluie. On aura de la pluie du sud-ouest au
mais
nord-est.
Mais il fait plus doux quand même.
Oui, alors ça, c'est la bonne nouvelle. C'est que la douceur, et d'ailleurs, elle persiste jusqu'à la fin de la semaine, mais la pluie aussi sur la moitié nord. On verra ça en détail tout à l'heure.
À vos côtés, celle qui m'a chaudement remercié d'avoir posté hier sur Instagram, sans son accord, une photo qui l'a montré vraiment à son avantage.
Mais un être vicieux.
Bonjour, Eva Roque.
Et puis insister en plus.
Et puis parler sur mes sons. Quelles questions judiciaires? Je les renvoie, alors je vais vous le dire. C'est sur mon compte Instagram, il y a une photo d'Eva Roque, très intéressant. Alors Eva, quelle question judicieuse avez-vous choisi de poser à nos auditeurs ce matin?
Figurez-vous, c'est toujours la journée sans portable encore aujourd'hui.
Oui, c'est alors, plusieurs jours.
Oui, c'est pendant 3 jours en fait.
Ah, c'est pas une journée sans portable, alors si c'est plusieurs jours.
Non, mais vous n'êtes pas obligé de faire pendant 3 jours, vous pouvez le faire un seul jour, vous voyez. Alors est-ce que vous êtes accro à votre portable? Pourquoi vous est-il si indispensable? Vous nous répondez sur Twitter avec le hashtag Europe 1.
Merci Eva, vous écoutez... Debout les copains, la rigueur de l'info, la chaleur de la bonne humeur. Et avant de démarrer aujourd'hui, je tiens à tendre le cou à une odieuse rumeur qui circule et selon laquelle je serais un être fondamentalement fourbe et sans cœur qui chaque matin en off ironiserait sur les reconversions professionnelles de nos invités de l'excellente rubrique 5h10, Fallait oser. Un cynisme sinistre dont seule la perspective d'un bon repas serait susceptible de me détourner. Franchement, est-ce que ça me ressemble, ce portrait du type odieux qui ne pense qu'à bouffer?
Oui.
Pas sûr que c'est toujours la même histoire. C'est vrai qu'il a redécouvert le pinot de Tisserand. Il a redécouvert la recette du pâté lorrain. Et là, il a redécouvert le biscuit.
Ah, est en envoi du pâté lorrain.
Ah oui, ah ça oui. Mais c'est sorti de son contexte. Ah non, franchement non, Eva, défendez-moi, dites quelque chose.
Tu es un être vicieux.
Bon, allez, donc c'est parti.
Et nous sommes le jeudi 7 février. Merci d'avoir choisi Europe 1. Et très bon réveil à tous, il est 5h. 5h-7h, Mathieu Noël.
Le premier journal de ce jeudi 7 février, c'est avec vous Jérôme Lacroix. Bonjour Jérôme.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Les titres.
Un corps a été extrait de la carcasse de l'avion qui transportait le footballeur Emiliano Sala et son pilote. Le monomoteur s'est abîmé dans la Manche le 21 janvier. Une autopsie va avoir lieu dans les prochaines heures pour identification. L'inquiétude dans les communes qui dépendent de petits services d'urgence hospitalière. La Cour des comptes préconise la fermeture de certains de ces services. Et puis nous en sommes les plus gros consommateurs européens. Les compléments alimentaires, notamment ceux à base de plantes, des produits réputés naturels, mais faut-il aveuglément leur faire confiance? Un rapport de l'Académie de pharmacie préconise la prudence.
Europe 1.
Fermer la nuit les petits services d'urgence hospitalière, c'est l'une des préconisations de la Cour des comptes dans son traditionnel rapport sur la gestion par l'État des finances publiques. Ces services qui seraient trop coûteux, pas assez fréquentés. Et voilà que l'inquiétude pointe dans les petites communes. Direction Feur, dans la Loire, 8000 habitants. Le service d'urgence a failli fermer il y a un an et demi. Le docteur Nicolas Olivier craint que la mauvaise histoire ne recommence.
On est sur deux planètes différentes. Eux, ils ont une vision purement économique. Ils n'ont pas du tout une vision de territoire, notamment dans le monde rural. On ne peut pas résumer tout cela que par de l'économie. Il faut une efficacité. Et l'efficacité de ces services, elle vient aussi par la proximité, par la rapidité d'exécution, justement, et de pouvoir amener les premiers gestes nécessaires pour prendre en charge le patient. Il y a une moyenne à peu près de 4 personnes par nuit sur le site de Feur.
Pas beaucoup, 4 personnes par nuit.
Eh bien, détrompez-vous, parce qu'à l'heure actuelle, en pleine épidémie, de grippe, vous avez 5 à 6 personnes qui dorment sur des brancards, plus les personnes qui arrivent en continu, en nuit profonde. Vous voyez, donc par période d'épidémie, par période critique, ça devient vraiment asphyxié. Donc il faut maintenir ces zones justement d'accueil, d'urgence et ce type de service.
Des propos recueillis par Jean-Luc Boujon pour Europe 1. Emmanuel Macron en Saône-et-Loire aujourd'hui dans le cadre du grand débat. À Étang-sur-Arroux, notamment 1900 habitants, le président va échanger avec un millier de jeunes, une population jusqu'à présent peu concernée par la consultation nationale.
Europe 1, il est 5h02.
Le corps qui se trouvait dans la carcasse de l'avion transportant le footballeur Emiliano Sala et son pilote a été repêché. Il est transporté vers l'île britannique de Portland pour y être autopsié et identifié. L'épave n'a pu, elle, être repêchée en raison de mauvaises conditions météo, mais les enquêteurs ont pu filmer la carcasse et collecter des indices afin d'éclaircir les circonstances du drame. La femme de 40 ans, fortement suspectée d'être à l'origine de l'incendie meurtrier il y a 2 jours à Paris, reste internée à l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police. Les rescapés ne peuvent toujours pas rentrer chez eux. La solidarité s'organise dans le quartier. Certaines victimes envisagent de porter plainte, espérant voir la suspecte aux lourds antécédents psychiatriques répondre de son acte présumé devant la justice. Le procureur a confirmé hier un bilan de 10 morts, 96 blessés. 4 personnes décédées restent à identifier. Moment de grande émotion attendu aujourd'hui à Bruxelles. Notre journaliste Didier François face à Mehdi Nemmouch, son geôlier lorsqu'il était otage en Syrie. Le djihadiste français est jugé en Belgique pour la tuerie du musée juif de Bruxelles. 4 morts en mai 2014. Mais en France, il est aussi mis en examen pour avoir été le geôlier de 4 Français.
L'Académie de pharmacie alerte sur les compléments alimentaires.
Et surtout ceux à base de plantes, figurez-vous, huiles essentielles, tisanes, gélules, des produits qui se veulent naturels, les Français les adorent, nous en sommes les plus gros consommateurs européens, 65% d'entre nous leur font confiance. Et pourtant, Mélanie Gomez.
Dans cette pharmacie parisienne, ce qui est le plus demandé, c'est tout ce qui est à base de plantes qui permet de lutter contre la fatigue ou alors de mieux dormir. Les clients réclament du naturel, explique Ariane Valizadeh, qui dirige la pharmacie Mirabeau.
Les phrases qui ressortent, c'est « on ne veut pas quelque chose de chimique, donnez-nous quelque chose de naturel où il n'y aura pas d'effet secondaire ». On l'entend quotidiennement, oui, effectivement.
Et le problème avec les patients, c'est que ces gélules naturelles, dans leur tête, ça veut souvent dire « sans danger ». Sandra, 30 ans, les avale les yeux fermés.
Plus pour maigrir plutôt que pour la forme. Non, j'ai jamais pensé à regarder la composition.
Et pourtant, même avec les plantes, les huiles essentielles, il faut toujours demander conseil, explique Ariane Valizadeh, car le danger, il est parfois quand certaines plantes sont consommées en même temps qu'un médicament.
Un exemple, le millepertuis qui joue sur l'humeur, sur l'état émotionnel, donc parfois même la dépression. La personne prend la pilule en même temps que son millepertuis, la pilule ne va plus marcher. Une patiente qui me demande du millepertuis, je lui demande tout de suite, tout simplement, si elle prend la pilule.
Enfin, dans ces gélules ou même ces tisanes, bien souvent, il n'y a pas de notice, donc pas moyen de connaître les effets secondaires et parfois, ils peuvent être graves. Un exemple, les compléments à base de soja peuvent altérer les effets de certains anticancéreux.
Reportage Europe 1 signé Mélanie Gomez. Theresa May de retour à Bruxelles aujourd'hui pour tenter de renégocier, de sauver l'accord sur le Brexit. Ce à quoi l'UE se refuse, la question de la frontière irlandaise sera au cœur des discussions. Et puis nous vous en parlions hier, le jeune Joshua Trump, vous savez, garçon de 11 ans harcelé aux États-Unis dans son quotidien d'écolier.
C'est vrai ?
Okay. Bon bah j'arrête alors. Bah,
bravo Eva.
Pardon,
de saper comme ça le travail de vos collègues.
Harcelé à l'école en raison de son nom de famille alors qu'il n'a aucun lien de parenté avec le président, l'épouse de Donald Trump, Melania, avait voulu en faire un symbole en l'invitant au discours sur l'état de l'union de son mari la nuit dernière à Washington. Est-ce que vous le savez ou pas?
Il s'est endormi.
Il s'est endormi.
Non,
il est trop mignon.
Une heure et demie, ouais, de 21h à 22h30, passé, c'était trop long.
À 11h, c'est l'heure du dodo, là. À 11 ans. Mais... Il est dans son petit fauteuil, comme ça, en train de dormir, il est trop mignon.
Mais Jérôme, la croix, ce n'est pas qu'un journaliste d'Europe 1, c'est aussi, ne l'oublions pas, et l'histoire du sport, ça ne l'oubliera jamais, le milieu récupérateur, le numéro 6, la plaque tournante, le N'Golo Kanté potelé de la S Saint-Géry dans le Tarn.
Qui sont les meilleurs? C'est nous!
Oui, on passe au journal des sports. Ce fut dur.
Ah oui, alors bah, j'ai perdu mon texte. Alors, du coup, je
les footballeurs du PSG ont connu toutes les peines du monde. Mais je
viens de le mettre là, ça y est.
Vous l'avez?
Oui, ça y est, les footballeurs du PSG ont connu toutes les peines du monde pour se qualifier pour les quarts de finale de la Coupe de France. Poussés à la prolongation par des courageux joueurs de Villefranche-sur-Saône. 3e division, alors score final 3-0. Mais il y avait 0-0 à l'issue du temps réglementaire.
Ils ont craqué après, voilà, physiquement peut-être.
Mais c'est exactement ça, physiquement. Et puis aussi les entrées de Cavani et Mbappé, ça a un peu gêné. Les Parisiens ont marqué par Draxler, Diaby et Cavani. Mais c'est quand même loin d'être rassurant côté PSG à 5 jours d'un 8e de finale de Ligue des Champions à Manchester face à United. L'aventure s'arrête en 8e pour Villefranche. Mais même pas la pointe d'un regret pour le capitaine Maxime Jasse, le natif du Beaujolais.
Je pense que voilà, tout le monde est un peu euphorique. On avait à cœur de montrer une belle image du FCVB, de Villefranche, de la région du Beaujolais. Et c'est des joueurs, mine de rien, qu'on admire un minimum. Je veux dire, voilà, Kylian Mbappé, il nous a fait vibrer cet été. Et là, on se rend compte qu'on joue contre lui. Je commence à ressentir une petite fierté de les avoir tenus quand même 90 minutes. Ah, on va y quand même un peu profiter des gâteaux et un peu de boisson en haut, à boire une ou deux bières quand même. Hein, on a le droit. Eux, ils n'ont pas le droit, nous, on a le droit.
Et par ailleurs, bravo aux Bretons. D'abord, les 4e divisions de l'AS Vitré et plus petits engagés, désormais victorieux 3-2 de Lyon-Duchère. Rennes, d'autres Bretons, donc les Rennais ont battu Lille 2-1. Ce soir, dernier 8e de finale, Guingamp-Lyon, 21h.
Et bonne nouvelle, le tirage au sort des quarts de finale a déjà été effectué.
Les Vitréens recevront les Nantais, le PSG accueillera Dijon, Rennes-Orléans et puis Guingamp ou Lyon, donc face à Caen, match les 26 et 27 février. En Espagne, on joue aussi la Coupe Nationale, la Coupe du Roi, et c'est un classico dans l'une des demi-finales. Barcelone-Real Madrid, un partout hier soir, c'était le match aller. Retour à Madrid le 27 février.
On termine, Jérôme, avec le chiffre du jour.
58. 58 minutes ont suffi hier au joueur de tennis tchèque Tomáš Berdych pour éliminer le français Benoît Paire au deuxième tour du tournoi de Montpellier, 6-2, 6-0. Joe Wilfried Tsonga s'est en revanche qualifié pour les quarts de finale en éliminant Gilles Simon. Tsonga affrontera Jérémy Chardy pour une place en demi-finale.
Merci, c'était le journal des sports de Jérôme Lacroix, inoubliable numéro 6 de l'AS Saint-Géry. On rappelle votre surnom dans les vestiaires ?
Coquillette translucide.
Toute une époque, hein.
Il est 5h10, Mathieu Noël.
Je ne me serais pas permis de le formuler comme ça, mais effectivement, je vous ai ressorti la coquillette. Debout les copains, continue avec le pressing, notre rue presse en mode zapping. Et puis, sentiment de tourner en rond dans votre vie professionnelle, de ne plus évoluer. Et si vous changiez de vie ? Chaque matin dans Fallait Oser, Europe 1 vous fait découvrir des hommes et des femmes qui l'ont fait. Aujourd'hui, Valérie, elle était responsable marketing. Un jour, elle a décidé de devenir pianiste-compositrice. Oui, il faut bien commencer quelque part. Mais d'abord, on fait un point météo avec vous, Céline Dacosta. Un temps pluvieux pour cette journée.
Oui,
pour
c'est vrai. Un ciel couvert du sud-ouest au nord-est, accompagné de faibles pluies. Ciel mitigé pour le nord-ouest, hein, où là, on aura quelques éclaircies, des averses, du vent, des rafales entre 60 et 80 km à l'heure. Ciel bien voilé près de la Méditerranée. Ce ciel incertain, on va l'avoir jusqu'à la fin de la semaine, avec un temps humide au moins jusqu'à lundi sur la moitié nord, le tout sous des températures qui, elles, seront encore très douces.
Merci Céline. Eva Rock, j'ai déjà oublié la question que vous avez posée à nos auditeurs.
Parce que vous êtes pas concerné.
Pourquoi ?
Parce que vous êtes incapable de faire une journée sans portable.
Ah oui, ça c'est sûr.
On est d'accord. Mais vous, chers auditeurs, est-ce que vous êtes accro à votre smartphone ? Pourquoi vous est-il si indispensable ? Vous nous répondez sur Twitter avec le hashtag Europe 1. Sébastien, par exemple, nous dit qu'il est accro pour la radio, pour la télé, pour les jeux, pour le GPS, pour ses rendez-vous.
Ah oui, il est bien accro, lui.
Oui, il dit c'est comme mon second cerveau. Jean-Sébastien, lui, nous dit c'est plutôt légèrement accro pour des raisons professionnelles, mais aussi parce qu'il est expatrié, que c'est un lien utile avec ses proches qui sont en France, évidemment. Puis Dominique de Souza, alors elle est allée se coucher avant d'écouter la mission. Elle dit j'ai coupé mon portable et elle le fait une fois par semaine pour débrancher totalement. Voilà, vous continuez sur Twitter avec le hashtag
une
Europe 1.
Une cure de désintox numérique. Merci Eva, merci chers auditeurs.
Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël.
Vous écoutez Debout les copains, 2 heures pour vous informer, vous amuser, mais aussi vous inspirer. Chaque matin, vers 5h10 dans Fallait Oser, on vous propose l'interview d'un homme ou d'une femme qui un jour a décidé de changer de vie. Ce matin, rencontre avec Valérie Marie, aujourd'hui pianiste, compositrice. Avant cela, elle a été responsable marketing pendant 15 ans. Il y a 5 ans, victime d'un accrochage en voiture, elle est invitée à venir signer un constat à l'amiable chez l'autre conducteur. Ce jour-là, Valérie a une révélation.
Fallait Oser.
Quand je vais rentrer dans cette maison, je vais voir un piano, un violon, des tableaux, des photos. Ça va m'interpeller immédiatement, je vais lui dire mais vous faites quoi dans la vie ? Et elle va me répondre une phrase qui va changer la mienne. Moi, je suis photographe, je vis de ma passion. Et vous ? Oh ben moi, je suis responsable marketing. C'est insipide, ça n'a pas de saveur par rapport à elle qui vit de sa passion. Je trouve ça merveilleux. Au bout de 3 jours de réflexion, je me lève et je me dis, go, c'est maintenant. Si tu ne tentes pas l'aventure, tu la regretteras toute ta vie. C'est maintenant, 40 ans, il faut y aller.
Valérie plaque tout et décide donc de reprendre sa passion d'enfance, le piano. Elle parvient à composer un peu et à se produire sur scène, mais elle n'arrive pas vraiment à percer.
Oui, et en fait, tout s'est accéléré il y a un an à l'aéroport de Toulouse. Elle est en train de jouer Alléluia de Leonard Cohen au piano, en plein milieu du terminal. Il y a un chanteur qui la rejoint et ce moment est capté par un portable, bien évidemment, et la vidéo va devenir virale, plus de 4 millions de vues. Valérie a tapé dans l'œil des professionnels et depuis, elle vit de sa passion, elle compose pour le cinéma et le théâtre et elle joue sur scène dans des spectacles avec un style bien à elle.
Moi, ce que j'aime, c'est raconter des histoires. J'aime raconter des histoires au piano, ou même orchestré. Et je crois que c'est ce qui est palpable, c'est le fait de ne pas jouer peut-être de façon trop banale ou trop exécutante. Je ne suis pas une concertiste, je ne serai jamais une concertiste.
Valérie Marie vit désormais de sa musique. Elle fait même des conférences pour raconter sa reconversion et parler de son métier.
Bah, si vous aussi, vous avez envie de parler de votre changement de métier, de votre changement de vie, vous nous écrivez
si
sur Twitter.
Si vous êtes mis, par exemple, à la flûte de Pan,
exactement,
ou Pipo
comme
Andalou,
moi,
bah,
comme moi aussi, ou au cymbale.
Au clairon, comme vous.
Voilà, au clairon. C'est sur Twitter avec le hashtag Europe 1.
Europe 1.
Il est 5h12, Mathieu Noël.
Vous écoutez Debout les copains, le 5-7 qui dit oui à l'info mais non à la sinistro. À suivre, littérature, musique, high-tech. Jeudi, les bons tuyaux vous donnera de la matière pour briller à la machine à café. Et puis, elle remplace le docteur Marcel Ichoux ce matin, Mélanie Gomez. La spécialiste santé d'Europe 1 nous parlera des dangers de la phytothérapie. Ne soyez pas inquiets, elle n'est certes pas médecin, mais elle a toutes les connaissances requises.
Des testicules à la prostate.
Et un certain franc-parler aussi, vous la découvrirez. La tornade Mélanie Gomez arrive, mais le calme avant la tempête, un peu de musique. Get Up, LSD, Thundercloud sur Europe 1. Thundercloud, c'était LSD sur Europe 1.
Il est 5h16. Voici l'essentiel de l'actualité avec vous, Mathieu Noël.
Le corps qui se trouvait dans la carcasse de l'avion transportant le footballeur Emiliano Sala et son pilote a été repêché. Il est transporté vers l'île britannique de Portland pour y être autopsié et identifié. L'épave n'a pu, elle, être repêchée en raison de mauvaises conditions météo, mais les enquêteurs ont pu filmer la carcasse et collecter des indices afin d'éclaircir les circonstances du drame. La femme de 40 ans, fortement suspectée d'être à l'origine de l'incendie meurtrier il y a deux jours à Paris, reste internée à l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police. Le procureur a confirmé hier un bilan de 10 morts, 96 blessés, 4 personnes décédées restent à identifier. Enfin, Emmanuel Macron en Saône-et-Loire aujourd'hui dans le cadre du Grand Débat à Étang-sur-Arroux, 1900 habitants. Le président va échanger avec un millier de jeunes, une population jusqu'à présent peu concernée par la consultation nationale.
Europe 1.
Voici pour les titres de ce 7 février, mais pour savoir sur quel cheval miser cet après-midi à Vincennes, à qui faut-il faire appel, Eva? Évidemment.
Bob Marley.
Presque, Thierry Léger.
Bonjour Mathieu, il y aura des courses cet après-midi à Vincennes et mon pari gagnant sera le 114 Classe de l'Oriole. oublié sa dernière disqualification le 27 janvier à Vincennes, où après avoir été emmurée vivante jusqu'à mi-ligne droite, elle s'est malheureusement perdue dans ses allures lorsqu'elle a pu trouver l'ouverture, confondant vitesse et précipitation. Nullement marqué par cette mésaventure, je sais que son entraîneur l'a préparé avec soin pour ce quintet où elle ne peut rêver meilleures conditions de course. Dès lors, une réhabilitation est fermement attendue. Notez bien, pour cet après-midi à Vincennes, réunion 1 dans la première course, le numéro 14, Classe de l'Oriole.
Merci Thierry Léger.
Il est 5h17.
Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël.
Vous écoutez Debout les copains et voici venu ce moment que vous adorez car il est propice aux épanchements, voire même aux confessions. C'est en effet souvent autour de la table du petit déjeuner. Eh oui, mais c'est la musique qu'on écoute au petit déjeuner, j'y suis pour rien. Quand les membres de la coloc DLC se retrouvent, qui en déshabillé de satin pinky,
c'est hyper moderne,
qui simplement vêtu d'un slip comestible en pâte feuilletée, que les langues se délient et qu'on se dit franchement ce que l'on a sur le cœur. Moi par exemple, j'étais persuadé que sous mes faux airs de méchant, de cynique, mes camarades percevaient en moi l'homme généreux, altruiste, ouvert que je suis profondément. La déception n'en fut que plus cruelle mardi quand je me risquais à signaler que je n'étais pas tout à fait une ordure et que c'était largement un rôle de composition.
La descente de ski, je reconnais que c'est spectaculaire,
c'est très spectaculaire
quand c'est diffusé, exactement.
Moi ça me fait peur, j'arrive pas à regarder. J'ai peur qu'il tombe. Parce que peut-être que je suis trop dans l'empathie, vous voyez.
Ah bon ?
C'est un peu mon problème dans la vie en général.
Ça s'entend pas,
d'accord.
Oui. Bon, on passe à la suite. On n'est jamais trahi que par les siens. Allez, on passe au pressing. Notre revue de presse en mode zapping. À la une de vos quotidiens ce matin, il est beaucoup question d'économie. Le Figaro et La Croix font leur gros titre sur la décision de Bruxelles d'interdire la fusion entre Alstom et Siemens. Libération nous embarque au Venezuela, dans le bastion des anti-Maduro. Quant aux Parisiens, c'est l'opposition Paris-Province qui fait la une, une opposition qui serait accrue avec la crise des Gilets jaunes. Mais vous, mes incorrigibles fouineurs, qu'avez-vous repéré dans la presse ce matin, Eva Roch ?
On vous aime à Mathieu, vous savez.
Mais je ne sais pas, je commence à me poser la question.
Oui, mais bien sûr. Allez, je vous raconte l'histoire du jour, elle est à lire dans Libération ce matin. Une histoire qui se déroule aux Pays-Bas, c'est là-bas que Joram van Klaveren s'est converti à l'islam.
On n'a pas de musique pour les Pays-Bas, tiens.
Ah oui, bon, c'est compliqué,
on
va chercher. Musique pour les Pays-Bas. Alors, une conversion et une révélation pour lui et pour les Hollandais qui connaissent très bien cet homme. Écoutez bien, réputé pour ses propos anti-islam, ses nombreuses revendications pour faire interdire le voile intégral, les minarets et surtout sa volonté de dé-islamiser les Pays-Bas. Alors qu'est-ce qui s'est passé pour que cet ancien député du PVV, Parti de la Liberté, qui est situé tout à droite de l'échiquier politique, devienne un fidèle du Coran ?
Ah oui,
eh bien, c'est en travaillant sur un livre destiné à décrire toutes les menaces que l'islam ferait courir aux sociétés européennes que Joram van Klaveren, 40 ans, marié et père de deux enfants, aurait eu cette révélation. Et il estime que cette conversion, lui, il explique tout simplement, c'est un retour aux religieux après une éducation dans une famille protestante orthodoxe. Alors l'explication, elle n'est pas du goût évidemment de ses anciens amis du PVV. Son leader a affirmé, c'est à peu près comme si un végétarien allait travailler dans un abattoir. Un autre camarade pense qu'il s'agit d'un coup publicitaire pour faire vendre son livre. Lui dit pas du tout, c'est une vraie conversion. Et son parcours d'ailleurs rappelle celui d'Arnoud Van Doorn, qui est un ancien élu du même parti, conseiller municipal d'Amsterdam, également converti et qui aujourd'hui milite pour que les mosquées néerlandaises soient protégées par la police comme le sont déjà les synagogues. De parcours assez incroyable que Libération vous raconte et qui rappelle toutefois quand même que le discours islamophobe contenu ces hommes ces dernières années ont eu de graves conséquences. Le nombre d'incidents violents en provenance de l'extrême droite a triplé en 3 ans aux Pays-Bas. Leur cible a d'ailleurs changé, c'est-à-dire que le néonazisme, qui s'attaquait en premier lieu aux Juifs, a laissé place à un combat contre l'islam dans ce pays. D'ailleurs, la rhétorique du PVV a toujours le vent en poupe. Hein, un parti qui devrait, selon les sondages, faire un excellent score lors des prochaines élections européennes. C'est le deuxième parti aux Pays-Bas actuellement. Et voilà comment deux anciens députés, ou en tout cas membres de ce parti, se sont convertis à l'islam.
Intéressante,
à lire dans Libération.
Intéressante histoire, ouais. Eva. Merci beaucoup. Céline Dacosta.
Alors, je vous parlais il y a quelques jours de Mélania Trump pour son engagement contre le harcèlement scolaire en invitant notamment le jeune Joshua Trump qui s'est endormi pendant le discours de Donald Trump. Et bien ce matin, dans Le Parisien, on parle d'une autre ambassadrice pour cette cause qui aura sûrement plus d'impact. Notre Miss France Vaimalama Chavez, qui a malheureusement bien connu cette forme de harcèlement pour en avoir été victime. Elle raconte dans un article d'Aujourd'hui en France que plus jeune, elle souffrait de surpoids et qu'en arrivant au collège, la situation empirait. Elle et les autres enfants disaient qu'elle ressemblait à un sac car elle se souciait peu de son apparence. Elle raconte comment elle s'est isolée pour se protéger, mais dit que c'était une mauvaise idée car en étant seule, elle était une cible parfaite. Les élèves l'ont alors affublée de ce surnom terrible, le monstre. Comment, au fur et à mesure, elle avait de moins en moins envie d'aller à l'école, elle vivait la boule au ventre sans en parler à personne, pour ne pas inquiéter ses parents notamment. Et elle dit que c'est ça sa plus grande erreur, que son plus grand message aujourd'hui envers les enfants en difficulté, c'est d'en parler à leurs parents, à un enfant enseignant, un psy, à une infirmière, peu importe, de ne pas rester dans le silence.
C'est aussi aux parents de faire l'effort de poser la question comment ça s'est passé à l'école tous les jours
parfois,
à leur enfant.
Mais parfois,
forcément qu'il y a un problème.
Tout va bien.
Ouais, exactement.
Il faut essayer de creuser parfois, quand on les sent un petit peu.
Fragile.
Elle dit qu'aujourd'hui, le harcèlement est encore plus pernicieux qu'à son époque, car il se poursuit aussi sur les réseaux sociaux. Donc, c'est 24 heures sur 24, un harcèlement continu. Il a duré 3 ans, son harcèlement, et puis c'est terminé. Le jour, elle a dit stop à un gamin qui l'insultait. Elle s'est vraiment énervée, a décidé de ne plus se laisser faire. Et là, les attaques ont diminué. Elle dit recevoir beaucoup de courriers de jeunes qui sont à leur tour dans cette situation et leur donne beaucoup d'espoir. Qui elle est devenue aujourd'hui, c'est la meilleure réponse à tous ceux qui l'ont harcelée plus jeune. Voilà pour notre Miss France qui est engagée dans cette lutte. À lire également. Oui.
Pardon, excusez-moi, il y a le 30-20 pour les enfants qui voudraient signaler qu'ils sont victimes de harcèlement ou
c'est
les parents. C'est un numéro gratuit pour stop au harcèlement, enfin non au harcèlement. Vous
anonyme,
appelez le
j'imagine.
30-20, exactement.
C'est bien de le préciser. À lire également dans ce quotidien, des nouvelles de notre famille bloquée par la neige, vous vous souvenez, dans le village de Cournioux, dans l'Hérault.
Comment ça se passe à Cournioux? Comment la situation évolue-t-elle?
Mardi soir, un tracteur a enfin déblayé la neige du chemin qui les séparait de la route principale.
Est-ce que le tracteur était chauffé?
J'imagine que oui. Il était rouge, non, j'en sais rien. Mais la famille Colombo a décidé de saisir le tribunal administratif de Montpellier, figurez-vous, pour entrave à la liberté d'aller et venir, réclame à leur commune qui n'est pas intervenue 100 euros d'astreinte par jour de blocage et 2000 euros de frais d'avocat. Hier, par texto, la famille a affirmé qu'une de leurs juments, vous savez, ils ont ouvert, ils s'occupaient de chevaux, voilà, à centre équestre, était morte, faute d'avoir pu accéder à leur stock de foin. Le juge doit rendre son délibéré ce matin. Voilà
nous
pour la suite des aventures.
Cette histoire et nous enverrons un envoyé spécial à Cornu
bien
pour
sûr,
suivre l'évolution de la situation.
C'est vous qui allez.
Okay. Jérôme Lacroix.
Oui Mathieu, vous êtes seul, vous ne le supportez plus. Figurez-vous que j'ai la solution en tout bien, tout honneur. C'est très simple.
C'est pas la peine de me regarder Mathieu.
C'est très simple.
Je ne regarde personne. Ouais.
Louer Mathieu, louer un ami.
Ah, c'est pratique ça.
C'est un phénomène devenu très important au Japon, figurez-vous. West France ce matin qui nous propose le reportage sur place. Il existe dans l'archipel des agences spécialisées dans la fourniture de faux amis. Alors, qui sont les clients? Alors, des femmes, des hommes, des divorcés, des cadres débordés, des mères célibataires. Alors, ça n'a rien, mais alors rien à voir ici avec une quelconque prostitution, je le dis tout de suite. Vous pouvez louer un ami pour aller boire un verre, avoir un peu de compagnie en tête à tête. Mais le rôle le plus demandé par les clients de ces agences, c'est celui de membre de la famille. Alors, exemple, ce soixantenaire, depuis la mort de sa femme, se sent très seul, notamment parce qu'il est fâché avec ses enfants. Bah, régulièrement, il loue les services d'une femme et d'une fille pour des sorties régulières au parc. Et la fille l'appelle papa maintenant. Un autre témoignage, Yuichi. Yuichi, c'est l'un de ses hommes à louer. Il est papa dans 25 familles. West France a recueilli le témoignage d'Ayano, une femme qui loue les services de Yuichi, pas pour elle, pour sa fille, pour lui offrir un père. Depuis 2 ans, 2 fois par mois, Yuichi vient voir la fille d'Ayano, la petite l'appelle papa, et la mère témoigner auprès de West France.
Mais attendez, là on nage quand même dans la science-fiction, c'est pour un enfant en plus qui ne fait pas la distinction entre un vrai papa et un faux papa, sur la durée,
la
à un moment ce papa il va aller prendre un job ailleurs, il sera plus son papa, donc ça crée
pour
des, psychologiquement,
c'est durée indéterminée. Justement, écoutez ça, la mère témoigne. Ma fille croit que Yuichi est son vrai père. Je lui dirai la vérité lorsqu'elle rentrera à l'université. C'est vraiment sur la durée.
À mon avis, vers 18-19 ans, elle se doutera de rien.
Voilà. J'espère qu'elle comprendra pourquoi j'ai menti. Alors, les boîtes qui louent ces faux amis assurent qu'elles mettent en garde les clients sur les conséquences de ces mensonges. Mais eux n'en sont pas
responsables.
Mais l'État
japonais, lui, trouve que c'est très bien.
Privé, donc de toute façon...
C'est du privé, on peut réguler quand même.
Alors oui, peut-être. Ça, l'article ne le précise pas. En tout cas, l'explosion de ce business montre la détresse humaine, comme on le constate ici, de certaines personnes au Japon.
Il va y avoir une explosion de psychanalystes et de psychiatres au Japon en peu de temps. Hein.
C'est finement pensé, ça.
Non, mais vous ne croyez pas?
Finement pensé.
Mais ça pose des problèmes d'identité quand même, sincèrement.
Vous ne pourriez pas être ma sœur?
Ma sœur, comment vous l'écrivez, ma sœur?
Ma sœur, c'est-à-dire vous voulez un massage? Comment ça se passe?
Ma sœur, plus loin, ça serait sympa.
Mais je pensais l'être
comme
déjà.
Comme on se verra encore plus souvent,
mais je pensais
au réunion de famille.
Mais je pense, vous me voyez plus
vrai que
votre propre
sœur. Oui, je pense que c'est vrai. Bah je pense que mon fils doit penser que vous êtes ma sœur.
D'ailleurs, elle t'appelle Tata.
Tata, oui, mais ça doit être ça. Voilà. Comme quoi, en fait, on fait la même chose, on s'en rend compte. On se fout de l'appel des Japonais. Et en fait, on réalise, en analysant un peu la situation, que nous-mêmes, on fait la même chose. C'est n'importe quoi.
Sauf que je ne vous fais pas payer.
Ça, c'est vrai. Ça, et ça, votre gratuité est votre plus grande qualité. Merci à tous, merci Jérôme. Les amis, le pressing referme ses portes. Céline, Eva, un ultime message à nos auditeurs.
Prouve que tu existes.
Bien.
5h27, Mathieu Noël.
Debout les copains, continue avec la météo et le journal d'Hélène Zelani. Harmonieux réveil à l'écoute d'Europe 1.
On trace.
Harmonieux réveil.
Europe 1, bien dans son époque.
Mieux comprendre, mieux se comprendre.
Du digital, de l'innovation, de la réflexion.
Écoutez de la bonne musique.
Humeur.
Avancer, se retrouver.
Et humour. Sourire, aller vers l'autre. Vos témoignages.
Nous partagerons vos expériences.
Vos questions.
En ligne au 3921. Bonsoir Monica.
Bonsoir Mathieu.
Europe 1, c'est une offre complète.
Bouger, cuisiner, réfléchir, se balader, se rapprocher.
Avec les copains et les copines.
Se faire du bien.
On est bien sur Europe 1.
Il est 5h27, Mathieu Noël.
L'heure d'un point sur la météo avec vous, Céline Dacosta. Au programme de la journée, de la pluie et du vent.
Oui, on retrouve notre perturbation pluvieuse arrivée par la Bretagne hier, de l'Aquitaine au Grand Est ce matin, avec de faibles averses. À l'arrière, entre le Poitou-Charente, les Hauts-de-France, pour la Bretagne, la Normandie, c'est un ciel mitigé. Partage entre nuages, éclaircies, encore quelques gouttes, surtout près des côtes. Et puis du vent, des rafales entre 60 et 80 km à l'heure. Pour le Sud-Est, là, le ciel est voilé. Soleil encore pour la Corse ce matin. Les températures, elles vont de moins de 2 degrés à Mulhouse en moment, passant par 2 à Montpellier, 5 à Toulouse, 9 à Lille, 10 degrés à Paris, à Bordeaux et à Nantes, 11 déjà du côté de Cognac.
Et cet après-midi ?
Même type de temps, beaucoup de vent sur la moitié nord du pays, des averses ponctuelles et quelques rayons de soleil. Ciel couvert et faible pluie des Pyrénées à l'Alsace et Franche-Comté avec de la neige sur les reliefs. Soleil bien voilé toujours près de la Méditerranée et les températures sont encore très douces pour la saison. 9 à 12 degrés, c'est la moyenne pour la moitié nord cet après-midi. 10 à 16, c'est pour la moitié sud.
Merci Céline. Et Varoc.
Alors, c'est encore la journée sans portable aujourd'hui, c'était pas seulement hier. Donc, est-ce que vous êtes accro ? C'est la question qu'on vous pose, chers auditeurs, depuis 5h ce matin. Et pourquoi vous est-il si indispensable, ce smartphone ? Et bien sûr, Twitter avec le hashtag Europe 1, vous êtes très nombreux à nous répondre, comme Romain Rix qui vient de nous dire « J'ai commencé à me poser des questions depuis que mon téléphone a cessé de me servir à... » téléphoner. Vous êtes nombreux à nous dire ça. Philippe, il nous dit « Je suis pas accro car il dispose d'autres moyens de communication via son ordinateur. Daki, il m'est indispensable pour répondre à vos questions. » Bah oui, c'est déjà une bonne option. Ou Noder qui nous dit « Je suis complètement accro. Même sous la douche, ça devient n'importe quoi. »
Même sous la douche.
Même sous la douche. Et Alexandra, elle nous dit qu'elle a réalisé sa journée sans portable. C'était hier. Et quand on lui demande si elle est accro, un peu, beaucoup, passionnément, elle était très heureuse de retrouver son smartphone ce matin. Voilà, vous continuez à réagir sur Twitter avec le hashtag Europe 1.
Merci à vous, chers auditeurs.
Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël.
Vous écoutez Debout les copains, le 5-7 qui vous informe, qui vous divertit, qui va même jusqu'à vous soigner. Et oui, sortez vos cartes vitales, notre point santé arrive avec une journaliste que vous connaissez peut-être et qui gagne en tout cas à être connue. Son côté brut de décoffrage peut surprendre, mais Mélanie Gomez, la spécialiste santé d'Europe 1, elle vous alertera ce matin sur les dangers de la phytothérapie. Et vous allez voir, comment dire, c'est quelqu'un qui a la langue bien pendue.
C'est avec la langue qui pend.
Oui, c'est QFT.
Bienvenue sur Europe 1, il est 5h30. 5h-7h, Mathieu Noël.
Les infos de ce 7 février 2019. Bonjour Hélène Zelani.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
À la une ce matin Hélène.
Emmanuel Macron face à un millier de jeunes pour tenter de les intéresser au grand débat. Le chef de l'État est attendu dans la petite commune d'Étang-sur-Arroux en Saône-et-Loire. Un corps dans l'épave récupérée dans l'épave de l'avion qui transportait le footballeur Emiliano Sala. Une autopsie permettra de savoir si c'est lui ou le pilote de l'appareil. Et puis Theresa May revient à Bruxelles ce jeudi. La première ministre britannique va tenter d'obtenir un nouveau compromis sur l'accord de Brexit.
Europe 1.
Cette fois, ce sont donc les jeunes que va écouter le président Macron pour une nouvelle étape du grand débat, direction la Saône-et-Loire. À partir de 15h, le chef de l'État va échanger avec un millier de 15-25 ans venus du Morvan sur les études, l'emploi ou encore la citoyenneté. Des jeunes qui, pour l'instant, se sont très peu fait entendre dans le débat à Autun, en Saône-et-Loire, Jean-Rémy Baudot.
Les jeunes, ils ne viennent pas spontanément parler fiscalité dans un gymnase, sourit un conseiller. Un constat partagé par une ministre qui a déjà fait plusieurs débats. Il faut souvent du temps pour que leurs paroles se libèrent. Dans l'entourage du président, on sait bien que c'est la population qui, pour l'instant, ne s'est pas impliquée dans les réunions publiques. Ils sont plus actifs sur le site internet du Grand Débat. C'est plus facile derrière son ordi pour donner son avis, tranche un membre de l'équipe gouvernementale. Pour le président, l'exercice d'aujourd'hui n'est pas si simple. Les questions devraient porter sur l'emploi, la formation, mais aussi sur la transition écologique ou les inégalités. Des thèmes sur lesquels le président aura peut-être du mal à convaincre un jeune public. Et surtout sur la forme, Emmanuel Macron répondra directement à chaque question pour éviter les longs monologues qu'on a connus avec les maires. Mais certains s'inquiètent déjà du ton qu'il prendra avec les jeunes. La manière dont il avait recadré un ado qui l'avait appelé Manu lors d'une cérémonie officielle avait marqué les esprits. Autain, Jean-Rémy Baudeau, Europe 1.
Et hier, Emmanuel Macron recevait à l'Élysée les dirigeants du Rassemblement National et des Insoumis.
Oui, Marine Le Pen lui a conseillé de dissoudre l'Assemblée Nationale pour que chacun puisse débattre à nouveau et d'instaurer la proportionnelle intégrale aux prochaines législatives. Quant à Jean-Luc Mélenchon, il a notamment évoqué la situation au Venezuela. Il a critiqué la reconnaissance par la France de l'opposant Juan Guaido, je cite, « un aventurier qui se proclame président de la République ». Si on fait ça, a ajouté Jean-Luc Mélenchon, le gilet jaune Éric Drouet sera président de la République. L'épidémie de grippe gagne du terrain. Elle a déjà fait plus de 1000 morts selon l'Agence sanitaire santé publique France, tous âges confondus. Les hospitalisations concernent principalement les 75 ans ou plus et les enfants de moins de 5 ans.
Un repas, il est 5h32.
Theresa May de retour à Bruxelles aujourd'hui.
La première ministre britannique va tenter de renégocier le traité de retrait de l'Union européenne dans un climat de tension. Le risque d'une sortie sans accord est chaque jour un peu plus grand. Le monde économique est évidemment très inquiet et tout particulièrement les patrons français installés en Grande-Bretagne. Rencontre signée Anaïs Cordoba.
La libre circulation est la base de son activité. Christophe est patron d'une enseigne de produits alimentaires français. Chaque jour, sa marchandise quitte le Nord-Pas-de-Calais, direction cet entrepôt londonien. De là, elle est aussitôt livrée aux clients.
On a imaginé que la région Nord-Pas-de-Calais était la banlieue de Londres. À partir du moment où vous remettez des frontières entre le Nord-Pas-de-Calais et Londres, il n'est plus question de rapidité logistique, il n'est plus question d'instantanéité. Si tous ces produits-là ne peuvent pas être amenés en moins d'une semaine, notre raison d'exister s'évanouit d'elle-même.
Christophe a entamé les démarches administratives pour se préparer à un possible retour des contrôles aux frontières. Mais cela ne suffira pas à survivre à un Brexit dur. Si de nouveaux tarifs douaniers sont mis en place, il sera contraint d'augmenter ses prix.
Est-ce qu'une PME sera toujours compétitive si ses prix de revente augmentent de ce qu'on peut imaginer entre 20 et 30%? Je le souhaite, j'ai aucune garantie aujourd'hui. Ça risque d'être aussi brutal que le mur de Berlin qui tombe, quoi. En termes économiques, ça va secouer de la même manière.
3300 entreprises françaises employant 370 000 personnes sont implantées au Royaume-Uni. Londres, Anaïs Cordoba, Europe 1.
Et hier, le président du Conseil européen Donald Tusk a créé la polémique en promettant une place en enfer à tous ceux qui ont fait campagne pour le Brexit sans penser aux conséquences. Alstom qui tire justement les conséquences du veto de la Commission européenne. Le groupe français renonce à son rapprochement avec les activités ferroviaires de l'allemand Siemens. Une décision incompréhensible et un grand gâchis, disait hier soir sur Europe 1 le PDG du groupe Henri Poupart-Lafarge qui promet un nouveau plan stratégique.
Un corps récupéré dans l'épave du petit avion qui s'est abîmé dans la Manche le 21 janvier dernier.
Oui, pour l'instant, on ne sait pas s'il s'agit du footballeur Emiliano Sala ou du pilote britannique. Une autopsie sera rapidement pratiquée. Les raisons de l'accident restent inconnues, mais les enquêteurs pensent avoir retrouvé des indices en filmant la carcasse de l'appareil. Et puis les thermomètres s'emballent. La période 2015-2018 a été la plus chaude jamais enregistrée à la surface du globe. Les premiers relevés datant de 1850. Une annonce de l'Organisation météorologique mondiale qui voit là une confirmation du réchauffement climatique à cause des gaz à effet de serre.
Merci, c'était le journal d'Hélène Zeleny. Et Hélène, je vous pose frontalement la question, vu que Jérôme Lacroix vient de nous rejoindre. Aimez-vous le sport extrême? L'adrénaline qui déferle dans nos veines pour nous permettre de nous dépasser. La sueur qui ruisselle le long des muscles bandés, gonflés par l'intensité de l'effort.
À mort.
Ah, ça ne m'étonne pas de vous, Hélène. On passe au journal des sports avec Jérôme Lacroix. GG. C'est donc l'une des informations de la nuit. Le corps, ah oui, mince, ça, vous ne m'avez pas prévenu. Vous m'avez pas prévu que ça commençait d'une manière un petit peu solennelle, n'est-ce pas?
Oui,
c'est une des informations de la nuit. On en parlait dans le journal avec Hélène Zanelli. Le corps qui se trouvait dans l'épave de l'avion d'Emiliano Sala et son pilote a été repêché.
Ce corps doit maintenant être analysé pour identification. Et pendant que les familles attendent avec angoisse, une certaine tension commence à monter entre l'ancien et le nouveau club d'Emiliano Sala, Nantes et Cardiff. Les Nantais entendent toucher les 17 millions d'euros du transfert. Le premier versement n'aurait pas été effectué alors que la vente a bien été validée par les instances. Et selon la BBC, eh bien Nantes a posé un ultimatum. 10 jours à Cardiff pour le premier versement de 5 à 6 millions d'euros. Simon Rubin.
Ce qui est établi, c'est que c'est bien à Cardiff de payer. Mais d'après la BBC, le club britannique refuse pour l'instant d'effectuer le premier versement et préfère attendre les premières conclusions sur les circonstances de l'accident. Cardiff qui s'étonne d'ailleurs de l'empressement du club nantais qui demande paiement le plus vite possible et menacerait même d'une action en justice, toujours d'après le club britannique. Au cœur de cette négociation, il y a le sujet de l'assurance. Si Cardiff était bien assuré pour Emiliano Sala, le club attendrait en fait les premières rapport sur le crash pour pouvoir faire jouer son assurance et éviter ainsi de payer de sa poche. Mais le FC Nantes, lui, ne veut pas attendre et redoute que Cardiff ne veuille qu'une chose, gagner du temps et retarder le paiement.
Simon Rubin.
Le PSG est en quart de finale de la Coupe de France, mais Dieu que ça a été laborieux.
Pas rassurant, alors que dans 5 jours, c'est Manchester United en 8e de finale à la Ligue des Champions. Ils ont finalement gagné 3-0 à Lyon contre Villefranche-sur-Saône, mais les joueurs de 3e division ont contraint les stars parisiennes à la prolongation. Par ailleurs, qualification de Vitré, 4e division, et de Rennes 2-1 contre Lille. Les affiches des quarts de finale, Vitré-Nantes, PSG-Dijon, Rennes-Orléans et les Canets se déplaceront à Guingamp ou à Lyon. Ces deux équipes s'affrontent ce soir 21h dans le dernier 8e de finale.
On termine avec une personnalité du jour aux confins du sport et de la littérature.
Je vous présente Guillaume Martin, 25 ans, cycliste professionnel à 2 Tours de France au compteur, mais aussi auteur. Il publie Socrate à vélo, une fantaisie philosophique, comme il dit, histoire de montrer que le sport de haut niveau n'est pas l'ennemi de l'activité intellectuelle. Et oui, toutefois, Guillaume Martin aime rappeler que son vrai métier, c'est d'être sur le vélo.
Je fais d'autres choses par ailleurs, pourquoi pas, mais...
Mais sur le vélo, vous philosophez ou pas ?
Non, mais pourquoi pas, on peut parler de pièces de théâtre, mais voilà, par ailleurs, quoi. Faut pas faire un mélange des genres.
Socrate à vélo, premier livre du cycliste Guillaume Martin, publié chez Grasset.
Merci beaucoup, c'était le journal des sports de Jérôme Lacroix. Et Jérôme, juste pour les auditeurs fidèles d'Europe 1 qui ont suivi votre idylle avec Céline Dacosta, le petit nom qu'elle vous donne dans l'intimité ?
Lapin d'or, lapin impérial.
Petit, mais nos auditeurs ont saisi l'idée, je crois. Ouais.
Europe 1. Il est 5h38, Mathieu Noël.
Vous écoutez Debout les copains, votre 5-7 journalistique comique porté par une équipe qui se plie en 4 pour vous. Des horaires infernaux, un réveil à 3h du matin, mais comme dirait Eva...
En même temps, on boit plein de bière. Hein.
Mais non, le jeu en vaut la chandelle, c'est ça qu'on avait dit Eva en conférence. Bref, à suivre. Notre point santé sur les dangers de la phytothérapie et puis l'essentiel de l'actualité culturelle sur un plateau. C'est le principe de Jeudi les bons tuyaux, une séquence qui vous plongera dans le même état d'excitation que Céline Dacosta. Mais après, est-ce souhaitable ? Évidemment, à vous de voir.
Il est 5h40, Mathieu Noël.
Vous écoutez Debout les copains, l'heure de faire un point sur la météo. Encore des averses aujourd'hui, Céline.
Oui, c'est vrai, on les retrouve principalement du sud-ouest au nord-est, mais le ciel sera aussi mitigé pour le nord-ouest avec du vent, de bonnes rafales entre 60 et 80 km à l'heure. Là, un ciel plutôt mitigé avec des éclaircies, là aussi des averses. Le ciel restera voilé toute la journée près de la Méditerranée et les températures fraîches encore par endroits ce matin seront très douces partout cet après-midi puisque la moyenne ira de 9 à 16 degrés du nord au sud.
C'était le temps avec Céline Dacosta.
Et vous profitez d'un temps toujours clément avec Rénoval, Véranda et abri de piscine.
On a encore foiré le jingle. Ouais, eh oui, pourtant j'ai tenté. Je l'avais oublié, je l'ai remis, mais j'ai parlé dessus.
Et moi, est-ce que j'ai un jingle
vous, je ne vous
pour
oublie.
Moi
non, vous n'avez pas de jingle.
Oh,
je peux le créer. Et baroque.
Ouais, c'est pas mal.
Pas mal ça.
Ouais, c'est la journée sans portable.
Non, visiblement, alors, c'est pas terrible.
Non, c'est pas terrible,
hein,
on va en faire un autre. Ouais.
Allez-y, Eva.
C'est la journée sans portable. Est-ce que vous êtes accro à votre smartphone et pourquoi vous est-il si indispensable ? C'est la question qu'on vous pose depuis ce matin, 5h. Et sur Twitter, avec le hashtag Europe 1, Mika nous dit qu'il est accro surtout pour les jeux et les applications comme l'équipe ou encore Google Actu, mais aussi pour les podcasts, comme les vôtres, quand je ne peux pas vous écouter en direct, parce qu'effectivement, vous pouvez nous retrouver un podcast sur Europe1.fr.
Un peu d'autopromo.
Mais ça fait jamais de mal. Hein. Marie-France, elle nous dit je suis parfois obligée de m'appeler pour savoir où est ce précieux truc, elle nous dit. Donc j'imagine que vous êtes très accro. Vous continuez à réagir sur Twitter avec le hashtag Europe 1.
Merci à tous.
Europe 1,
5h, 7h,
Mathieu Noël.
5h41, l'heure de notre page santé avec aujourd'hui Mélanie Gomez, la spécialiste santé d'Europe 1. Bonjour Mélanie.
Bonjour.
Attention aux compléments alimentaires à base de plantes. C'est le message du rapport de l'Académie de pharmacie qui sera publié aujourd'hui. Donc attention aux huiles essentielles, tisanes et autres gélules, tous ces produits soi-disant plus naturels qui ont le vent en poupe en France, mais qui ne sont pas sans risque, Mélanie.
Et oui, clairement, le message de l'Académie de pharmacie dans son rapport ce matin, ce sera qui dit plante dit pas forcément sans danger. Même si 65% des Français leur font confiance, attention, car leurs risques sont souvent bien sous-évalués. Et je vais vous donner quelques exemples concrets. D'abord, certains spécialistes affirment que 5 à 10% des intoxications traitées dans les centres antipoisons seraient liées à la consommation de plantes médicinales, comme la menthe par exemple. C'est peu connu,
c'est
mais en huile essentielle, attention, ça peut provoquer des convulsions.
Ah oui, c'est pas les mojitos.
Des convulsions,
voilà. C'est pas la menthe des mojitos qui provoque.
Non, voilà. Ça peut aussi...
Oui, ça provoque d'autres types de convulsions.
Voilà, ça. Ouais.
Bon, alors on oublie la menthe, mais en revanche, on ne risque rien, j'imagine quand même, avec les petites gélules à base de plantes pour être en forme l'hiver.
Eh bien non, méfiez-vous aussi des petites gélules en fait en phytothérapie, donc dans la médecine des plantes, hein, partez du principe que rien n'est jamais anodin. Notamment ces compléments alimentaires à base de plantes, parfois, ils sont pas dangereux en soi, mais ils peuvent le devenir quand ils sont consommés en même temps qu'un autre médicament. Ce dernier temps, l'exemple le plus souvent cité, c'est celui du millepertuis. C'est une plante très à la mode en pharmacie, contre l'anxiété, les troubles de l'humeur, mais ce qu'on sait moins, c'est qu'elle diminue l'efficacité non seulement de certains antidépresseurs, mais aussi de la pilule contraceptive. Donc les femmes sous pilule, ben, évitez le millepertuis, ça risque de vous stresser un peu plus. Hein.
Donc pas la menthe, pas le millepertuis, et quoi d'autre ? En fait, le mieux, c'est peut-être de toujours garder la notice pour éviter les accidents ?
Alors, le problème avec ces produits, avec ces gélules, avec ces tisanes, eh bien souvent, c'est qu'elles n'ont pas de notice. Donc le mieux, c'est surtout de les acheter toujours en pharmacie pour avoir un conseil, et donc jamais sur Internet, par exemple. Le seul moyen de connaître la bonne posologie et les éventuels effets secondaires, c'est de demander à un pharmacien. Donc ça, c'est important parce que certains effets secondaires peuvent être graves. Je vous donne un exemple, hein, les compléments alimentaires à base de soja, ils sont très à la mode, notamment en post-ménopause par exemple. Eh bien, ces compléments, ils ont beaucoup de succès, mais ils peuvent tout de même altérer les effets de certains anticancéreux. Donc c'est du sérieux. Hein.
Vous avez bien noté, Eva.
Oui, j'ai noté.
Faites très attention.
Dès que j'ai dit ménopause, c'est ça.
Le millepertuis, je pensais surtout. Le stress, tout ça.
Ouais, c'est pour vous le millepertuis, un trouble de l'humeur.
Merci beaucoup, Mélanie Gomez, spécialiste santé d'Europe 1. Et Mélanie Orantaine, vous me direz hein, par rapport à ma petite interrogation là.
Tu manges beaucoup d'aspirine souvent par jour, ouais, comme ça. Tu sais que c'est très bon pour le côlon, par exemple.
Orantaine, Mélanie, on avait dit.
Europe 1.
Il est 5h44, Mathieu Noël.
Vous écoutez Debout les copains, 2 heures pour tout savoir de l'actu sans jamais oublier d'en rire. 2 heures aussi pour vous guider dans ce monde qui est souvent une jungle. Car de même que je suis là pour conseiller Eva en matière de plan Tinder...
Il me dit qu'il a une copine mais que...
Qui a moyen de moyenner ? Non, mauvais plan Eva. Ils sont là pour vous conseiller eux en matière de musique, de cinéma et de littérature. L'équipe de Jeudi les bons tuyaux arrive. Avec ce matin Apple qui se lance dans le reconditionnement des iPhones, ce qui va vous permettre de mettre la main sur un iPhone récent, garanti et moins cher. On y vient juste après une parenthèse musicale. Voici Roi, Bilal Hassani sur Europe 1. And I know I will always be. Je suis free, oui j'invente ma vie. Ne me demandez pas qui je suis. Moi je suis le même depuis tout petit. Et malgré les regards, les avis, je pleure, je sors et je ris. You put me in a box, want me to be like you. J'suis pas dans les codes, ça dérange beaucoup. At the end of the day, you cannot change me, boo. Alors, lâche-moi m'envoler. I'm not rich, but I'm shining bright. Roi, Bilal Hassani sur Europe 1.
Il est 5h47. Voici les l'essentiel de l'actualité avec vous, Mathieu Noël.
La femme de 40 ans, fortement suspectée d'être à l'origine de l'incendie meurtrier il y a deux jours à Paris, reste internée à l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police. Le procureur a confirmé hier un bilan de 10 morts, 96 blessés, 4 personnes décédées restent encore à identifier. Theresa May de retour à Bruxelles pour tenter de renégocier l'accord sur le Brexit, ce à quoi l'Union européenne se refuse. La question de la frontière irlandaise sera au cœur des discussions. Enfin, au Venezuela, l'opposant Juan Guaido demande aux militaires de ne pas bloquer l'aide humanitaire. C'est ce qui se passe depuis hier sur ordre du président contesté Nicolas Maduro. Les États-Unis se sont par ailleurs dit cette nuit prêts à exempter de sanctions les militaires qui désavoueraient justement Nicolas Maduro.
Europe 1.
Voici pour l'essentiel de l'actu de ce jeudi 7 février 2019. Et à l'heure de passer au pronostic hippique du jour, je serai bref. Car lorsqu'il agrippe nerveusement son calepin pour noter les favoris de José Coves, le turfiste n'a que faire des circonvolutions pseudo-littéraires d'un écrivain frustré, circonvolutions lyriques, sublimant la beauté de la jante chevaline, la symbolique aussi du sport équestre qui nous renvoie à Mallarmé. Mallarmé qui, dans ses méditations, écrivait non sans malice.
Tu vas la fermer ta grande gueule !
Bon, c'est pas tout à fait ça qu'il disait Mallarmé. Mais bon, vu que la poésie vous est hermétique, ok, bonjour José Coves.
Bonjour, Mallarmé est forfait cet après-midi à Vincennes et parmi les 15 juments dans la première course, mes 5 favoris. D'abord, le numéro 2, Tool Time. Sa dernière 3e place prouve qu'elle est proche d'une victoire. Le 6, Contre et d'Érable, va encore lutter pour les premières places. Si le 14, Classe de l'Oriole, reste au trot, elle peut toutes les battre. Jean-Michel Bazir se dit confiant avec le 15, Bonne Copine. Écoutons la voix du maître. Puis le 13, Crêpe de Satin, pour une 4e ou 5e place. On peut encore choisir le numéro 1, Weldon Lamarck. C'est la bonne surprise. Puis le 5, Sebala Park, si on la juge sur sa meilleure valeur. Même constat avec le 7, Beauloise au fort. Sur ce qu'elle a fait de mieux, sa chance est évidente.
Et le numéro 1, Weldon Lamarck, vous l'avez bien sorti d'une pochette surprise ?
Alors, pas du tout. Il faut juger Weldon Lamarck uniquement sur sa prestation le 11 janvier à Vincennes. Elle n'aurait jamais dû être battue ce jour-là. Donc, l'avoir à l'arrivée aujourd'hui ne serait pas pour moi une surprise. Mathieu, un cheval peut toujours refaire ce qu'il a fait de mieux aux courses. C'est un principe de base.
Comme vous. Merci, José Coves.
Il est 5h49.
Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël.
Vous écoutez le 5-7 d'Europe 1. Debout les copains continue avec notre page culture et nouvelles technologies. Voici jeudi les bons tuyaux. Eva Rock pour les écrans, Grégoire Martinez pour les innovations technologiques et pour la littérature. Mon Dieu Eva, mais qui vois-je à l'horizon ?
Hello les amis, je suis le capitaine Iglo.
Et oui, c'est l'amiral Caro, Nicolas de son prénom, notre monsieur livre qu'on imaginait, vivant, chichement, d'amour et d'eau fraîche, de poésie, dans une studette insalubre sur les toits, sous les toits de Saint-Germain, avec une propriétaire odieuse qui l'aurait souvent projeté d'éliminer, sans jamais toutefois avoir le courage de Raskolnikov. Et pour cause, il n'est pas russe, il est tourangeau. Mais en tout cas, mardi, le mythe du journaliste... Vous êtes nantais ? Ah oui, bon, c'est encore pire. Mais en tout cas, mardi, le mythe du journaliste littéraire désargenté qu'il cultivait, afin probablement de ne pas trop attirer l'attention du fisc, a volé en éclats au détour d'une confession bling bling.
Vous savez que parfois elle était sur l'Atlantique, sur mon bateau.
Sur votre bateau ?
Petit dériveur.
Petit dériveur avec trois cabines, le wifi et la plancha. L'amiral Caro sait vivre, mon cochon. Alors Nicolas, en attendant la saison du yachting qui arrive, de quoi vous nous parlez ce matin ? Le jeudi, c'est toujours important d'avoir une plancha sur un yacht. Nicolas vous expliquera. Le jeudi, c'est Livre Audio. Vous avez essayé de nous faire écouter du Maigret ce matin.
Oui, Maigret, oui. Parce que 2019, c'est l'année.
Simon. 2009 aussi, c'était une bonne année pour Maigret.
Les 30 ans de sa mort, les éditions Omnibus ont décidé de publier l'intégrale des Maigret, c'est-à-dire 75 romans et 28 nouvelles. Les trois premiers tomes viennent d'arriver, regardez. Et 7 sont à venir encore.
Alors, le truc, c'est qu'on ne vous l'a pas dit, mais on n'est pas filmé en fait avant 6 heures. Mais on imagine.
Oui,
alors,
je suggère.
On vous suggère effectivement, vous avez soulevé 3 livres très épais qui doivent peser très lourd. Mais on peut donc aussi écouter ces enquêtes.
Absolument,
Nicolas.
Absolument. Il y en a quelques-unes disponibles, et notamment celle-ci, la première enquête de Maigret, c'est le titre. Nous sommes en 1913 à Paris. Maigret et l'agent Lecoeur sont au commissariat, et soudain.
Tous deux relevèrent la tête en entendant des pas précipités sur le trottoir. La porte s'ouvrit. Un homme jeune, essoufflé, regarda autour de lui, ébloui par la lumière du gaz. Le commissaire, questionna-t-il, haletant. Je suis son secrétaire, dit Maigret sans quitter sa chaise. Il ne savait pas encore que c'était sa première enquête qui commençait.
secrétaire ?
Eh oui, Maigret n'est pas encore commissaire. L'homme qui vient d'entrer s'appelle Justin Minard. Il est inquiet parce qu'en passant devant un hôtel particulier de la rue Chaptal, il a entendu un cri perçant, le cri d'une femme et un coup de feu. Maigret décide d'accompagner Minard là-bas. Ils se font ouvrir la porte, mais on le rassure qu'il n'y a rien à signaler. Tout le monde va bien.
Oh, mais ça alors ? Fin de l'histoire ?
Ben non, il demande la permission d'enquêter, mais c'est une famille puissante qui habite à cette adresse. Alors il prend quelques vacances pour enquêter tranquillement sans faire trop de vagues. Mais évidemment, il déclenchera très tranquillement à la Maigret un tsunami. La première enquête de Maigret publiée en 1949 est disponible en format audio sur audible.fr, lue par Marcel Mouloudji.
Maigret donc à lire en intégrale chez Omnibus ou à écouter, on l'a compris. Merci Nicolas. L'amiral Caro.
Une petite balade en bateau avec la plancha.
Ah là, ça sera sympathique ça. J'entends déjà... le bruit de la mer, oui. Conjointement au crépitement des chipots.
Ouais.
Ça serait magnifique. Il y aurait des pages de littérature à écrire là-dessus. À vos côtés, Nicolas, l'excellent Grégoire Martinez. Il existe une solution, Grégoire, pour acheter un smartphone moins cher que son prix normal. C'est de l'acheter presque neuf.
Ah oui, il paraît, c'est vrai.
Non, il se fout de la gueule alors que c'est lui-même qui a écrit le lancement, je signale.
Non, ça se fait de plus en plus et c'est ce qu'on appelle le reconditionnement. En fait, c'est un smartphone remis à neuf par son constructeur ou par une entreprise spécialisée qu'il propose ensuite à la vente pour un prix limité. Ça existe en France depuis plusieurs années avec des sociétés comme Recommerce ou Backmarket, par exemple. Mais depuis hier, eh bien, il y a un nouvel acteur qui est entré sur ce marché. Et ce nouvel acteur, c'est tout simplement Apple, le constructeur des iPhones. Maintenant, si vous allez sur le site d'Apple, vous pouvez acheter des iPhones reconditionnés à un prix plus intéressant que s'il était neuf. Pour vous donner une petite idée, un iPhone 8 Plus, qui est le modèle de l'an dernier, il sera vendu 120€ moins cher que s'il était neuf. Pour un iPhone 7, on tourne même autour de 500€ contre plus de 630€ normalement. Et il y a un avantage à prendre son smartphone reconditionné chez Apple plutôt que de passer par une autre entreprise, c'est que du coup, on a la même garantie d'un an que pour un iPhone 9, tous les accessoires neufs aussi, et une batterie et une coque extérieure neuve.
Mais ça marche vraiment ? On risque pas de se faire avoir quand même ?
Bah oui, ça marche même très bien.
On vend... Parce que moi, on me la fait pas. Martinez.
Non, c'est vrai, mais vous savez qu'il se vend, Mathieu, 2 millions de smartphones reconditionnés en France chaque année.
Et alors, moi, j'ai pas envie de me faire avoir. Ouais. Si non, jamais je tombe sur celui qui a été mal reconditionné.
Alors justement, il faut bien faire attention à où est-ce qu'on achète son smartphone reconditionné. Donc on citait Apple qui vend avec une garantie. Recommerce ou Backmarket, dont je parlais tout à l'heure, aussi permettent de trouver des smartphones qui sont reconditionnés en bon état. Maintenant, il faut bien faire attention à la réputation du site sur lequel on achète. Et puis, effectivement, Apple, ils ont l'avantage de proposer une garantie, mais c'est pas le site le plus bon marché, même quand il s'agit de reconditionner. Vous trouveriez un iPhone moins cher sur e-commerce ou sur Backmarket. Et puis, c'est pas du tout une nouvelle tendance, même pour Apple, puisque Apple vendait déjà des iPads et des Mac reconditionnés.
Oui, c'est une suite logique, finalement.
Exactement, c'est une suite logique.
Merci, Grégoire Martinez. Eva Rock, qu'est-ce qui se passe sur nos écrans ?
Eh ben, c'est sur Arte que ça se passe.
Ah, c'est sur Arte ?
Oui, sur le site internet d'Arte, les Shadok droit dans le mur à toute pompe. En fait, Arte consacre un web documentaire à ce programme culte de l'année 1968, les Shadok, création de Jacques Roussel, porté par la voix de Claude Pieplu. À travers les 10 épisodes de 5 minutes chacun, vous allez comprendre dans quel contexte ont été créés ces étranges animaux. Mais d'ailleurs, c'est quoi les Shadok ?
D'abord, c'est quoi un Shadok ?
Les Shadok ressemblaient à des oiseaux. Ils avaient un bec et des pattes, mais leurs ailes étaient ridiculement minuscules.
Les Shadok sont tellement les damnés de la Terre qu'il y en a qui sont carrément en dessous à la portée.
Comme la planète Shadok changeait de forme, il y avait des Shadok qui tombaient. C'était très gênant, surtout pour les Shadok.
Est-ce que vous avez reconnu la voix du narrateur web documentaire ?
Qu'est-ce qu'il fout là ? C'est Benoît.
Et Benoît Poulvord, exactement. Qu'est-ce que vous avez dit, Nicolas Caro ?
Claude Pieplu.
Ah ben non, ça va être compliqué.
Mais c'était quand même le narrateur des Shadok.
Oui, mais le narrateur du web documentaire, c'était Benoît Poulvord, effectivement, dont la personnalité colle parfaitement à ce que furent les Shadok, un éloge de l'absurdité. Alors ces pastilles reviennent sur les artistes qui ont influencé Jacques Roussel, mais aussi comment ces drôles d'animaux ont été une révolution télévisuelle. C'est un documentaire hyper malin, plus que les Shadok d'ailleurs, qui nous replonge dans un temps où l'originalité et la créativité avaient droit de cité à la télé. C'est d'ailleurs troublant de voir à quel point ils sont modernes, ils étaient modernes et le restent encore. Et c'est à voir sur le site d'Arte, c'est des petites pastilles comme ça que vous pouvez regarder de temps en temps. Les Shadok droit dans le mur à toute pompe.
Pour vous, j'imagine que c'est le Moyen-Âge, Martinez, les Shadok.
Je ne sais même pas s'ils voient à quoi ça ressemble, les Shadok.
Je vois quand même à quoi ça ressemble, mais effectivement, ça n'a jamais été trop ma génération.
Oui, voilà, ça n'a même pas été la mienne, donc forcément. Ça n'a duré qu'une année ?
Il y a eu 52 épisodes en fait.
En une année. Ouais. D'accord, je pensais que c'était
super. J'avais moins beaucoup d'années à cette
oui, année-là. T'avais moins beaucoup d'années, effectivement. Merci Eva Rock, merci à toute l'équipe des Bons Tuyaux qui se reformera demain. Et tiens, Céline, puisqu'on a la chance d'avoir Nicolas Caro avec nous, vous ne voulez pas qu'on lui demande de nous parler encore un peu des inédites Salinger qui sortent ce mois-ci ?
Envoyez la pub.
Oh, c'est dommage, oh, non. C'est intéressant.
Il est 5h57, Mathieu Noël.
À suivre dans Debout les copains, votre météo avec Céline Dacosta et le journal de 6h de Céline Kalman.
Il est 5h57, Mathieu Noël.
L'heure d'un point sur la météo avec vous, ma chère Céline Dacosta. Vrai. Des températures encore très douces pour la saison.
Oui, cet après-midi, on aura une moyenne de 9 à 12 degrés pour la moitié nord, 10 à 16 pour la moitié sud. Et puis ce matin, encore un petit peu de fraîcheur par endroit, moins 2 degrés à Mulhouse, 2 à Montpellier, 5 à Toulouse. Ça grimpe vite, hein, 9 à Lille, 10 à Paris, Bordeaux et Nantes. Il en fait déjà 11 à Cognac.
Au programme ce matin, de la pluie et du vent.
Oui, on retrouve notre perturbation pluvieuse qui était arrivée par la Bretagne hier, de l'Aquitaine au Grand Est ce matin, avec de faibles averses à l'arrière, entre le Poitou-Charentes, les Hauts-de-France, pour la Normandie, la Bretagne également, la région centre. C'est un ciel mitigé, partagé entre nuages et éclaircies, avec encore quelques gouttes, surtout près des côtes, et puis du vent de bonnes rafales, hein, qui soufflera entre 60 et 80 km à l'heure. Pour le Sud-Est, là, le ciel est voilé, soleil encore pour la Corse, mais uniquement ce matin.
Et cet après-midi.
Même type de temps, beaucoup de vent sur la moitié nord, des averses ponctuelles, quelques rayons de soleil, ciel couvert et faible pluie qui se seront décalées un petit peu plus vers le sud-est, hein, des Pyrénées à l'Alsace et Franche-Comté, avec de la neige sur les reliefs, soleil bien voilé près de la Méditerranée.
Merci Céline.
Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël.
Vous écoutez Debout les copains, 2 heures de rire, d'infos et de réflexions frappées au coin du bon sens. Car de même que l'Athènes du 5e siècle avant Jésus-Christ pouvait se targuer de réunir trois des plus grands esprits au monde, Socrate, Périclès et Aristophane, à réécouter les offres de notre émission d'hier, je crois qu'Europe 1 au 21e siècle peut se targuer de réunir Céline Dacosta, Eva Rock et Bibi. Tant nos réflexions sont parfois puissantes, comme hier durant le sujet sur le bobsleigh.
Oh, le bobsleigh, c'est flippant, je trouve.
Ouais, à quel moment tu viens faire du bobsleigh dans ta vie? À quel moment?
Ah bah c'est comme cymbaliste, quoi. Non, c'est vrai, quoi.
Heureusement, mais alors vraiment heureusement, Debout les crétins, c'est aussi l'apport d'un véritable historien. Pour compenser un peu. Alors qu'elle publie son rapport annuel, Fabrice Dalméda revient sur l'origine d'une des garantes de nos institutions, la Cour des comptes.